Est-ce que vous connaissez Marion Maréchal ? Évidemment, vous savez qu'elle est la tête de liste du parti de Reconquête pour les élections européennes en juin prochain. Vous connaissez ses idées, ses combats auprès d'Éric Zemmour, vous savez qu'à 33 ans, elle est une figure majeure de la droite en France. Mais, la connaissez-vous vraiment ? Vous a-t-elle raconté son enfance, ses études, sa vie de famille, son entrée à l'Assemblée nationale à seulement 22 ans, ou comment chacune de ces étapes a forgé chez elle une ambition intime pour la France et bientôt pour l'Europe ? Vous croyez la connaître ? On va lui demander.
Est-ce que vous pensez que les Français vous connaissent bien ?
Alors, je pense qu'une partie des Français me connaît, pour ceux qui ont pu suivre la vie politique que j'ai menée, notamment lorsque j'étais députée, de 2012 à 2017. Je pense que la nouvelle génération de Français me connaît moins bien, parce que forcément, ils étaient jeunes ou adolescents lorsque j'étais députée, donc forcément moins connectés à la politique. En revanche, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup, de fait, je le constate ne serait-ce que dans mon quotidien, n'ont pas encore tout à fait compris que j'étais aujourd'hui avec Éric Zemmour à Reconquête, que je n'étais plus au Rassemblement national depuis maintenant plusieurs années déjà, ou même que j'étais tête de liste pour l'instant pour les européennes. Donc c'est aussi l'enjeu de ce lancement de campagne tôt, c'est précisément de pouvoir éclaircir tout ça et faire connaître cette position.
Est-ce que ça vous arrive au quotidien de vous présenter aux gens ? Parce que je sais que ça paraît un peu difficile à imaginer pour nous qui sommes la tête dans le journal en permanence, politisés ou non par ailleurs. Mais est-ce que pendant la dernière campagne législative, quand vous alliez tracter au quotidien, il y avait des personnes, vous deviez rappeler qui vous étiez ?
Alors, assez rarement, pour être honnête. De manière générale, les gens comprennent assez vite qui je suis. Maintenant, il m'est arrivé des choses cocasses. Parce que c'est vrai que parfois, les gens vous voient, ils savent qu'ils vous ont vu quelque part, mais ils ne savent plus où. Donc j'ai eu des échanges du type « Mais si, on était ensemble à Méribel en 2008 ». Non, je vous assure que ce n'était pas moi. J'ai eu aussi deux choses très drôles. J'ai souvenir une fois d'un aller-retour entre Paris et Avignon, parce que j'ai été élue à l'époque dans le Vaucluse. Et je me rends au bar du TGV. Donc il y avait une longue file. Et j'arrive donc devant la barman et qui me dit « Ah non, c'est pas vrai, c'est vous. J'adore ce que vous faites, formidable. » Donc là, elle part dans une déclaration adorable, dithyrambique, et elle conclut par « J'ai tellement hâte que la prochaine saison de Plus belle la vie sorte. Je vous assure que c'est vrai. » Et là, je ne connais pas cette série, je ne l'ai jamais regardée, donc je ne sais pas du tout à qui elle fait référence. Et elle me dit « Est-ce que je peux avoir un autographe ?» Et je me dis, mais la pauvre, quand elle va se rendre compte qu'elle est repartie avec un autographe de Marion Maréchal Le Pen, je pense que ça va être un peu spécial pour elle. Et j'ai pas osé lui dire, en fait. Elle était tellement contente. Là, pour le coup, j'avoue que je l'ai laissé dans sa joie du moment, qui retombera au moment où elle lira son autographe. Et un autre truc qui m'est arrivé, pour le coup, plusieurs fois, et je vous assure que ça n'est pas de la vanité mal placée, mais à plusieurs reprises, des gens, notamment des jeunes filles, m'ont pris pour Élodie Gossoin.
D'accord.
Et ça m'est arrivé une fois à l'aéroport où elles sont venues me voir. « Ah, Élodie, est-ce qu'on peut... » Et je leur ai dit quand même que c'était pas moi.
Et vous dites qui vous êtes après ?
Et là, en l'occurrence, oui, je leur ai dit tout à fait. Et j'ai trouvé ça assez flatteur. Hein. Bon, voilà, ancienne Miss France. Et pour dire que je ne délire pas et que ce n'est pas un mensonge, je tiens à vous dire qu'un jour, j'ai vu Élodie Gossoin interviewée chez Ruquier. Et je ne sais pas pourquoi, le sujet des sosies arrive. Et elle dit, écoutez, ça m'est déjà arrivé qu'on me prenne pour Marion Maréchal Le Pen dans la rue.
D'accord.
Voilà, donc ce n'est pas un délire personnel, je tiens à le dire. Ouais. Voilà, donc bon, indépendamment de ces moments un peu cocasses, et j'en ai plein en tête, de manière générale, les gens quand même... une fois plus, sauf la plus jeune génération, identifie assez vite qui je suis.
Parce que je vous pose cette question, parce que j'ai enquêté sur vous, et j'ai appris que vous preniez encore les transports en commun toute seule. Ça vous arrivait encore ?
Ah, j'ai une vie, ça m'arrive, j'ai une vie tout à fait... moi, j'ai pas de garde du corps, j'ai pas de chauffeur, je vais chercher mes filles à l'école.
Mais on vous imagine mal pas être, interpellé en permanence dans les transports en commun.
Alors, ça m'arrive, maintenant, je fais quand même attention, hein, notamment vis-à-vis de mes filles. Vu les circonstances actuelles, ça vous étonnera pas que... mais je veux pas m'installer dans une psychose. Et puis, par ailleurs, je me suis toujours dit, bon, si j'ai plus le courage de vivre, entre guillemets, au milieu de mes compatriotes, il faut que j'arrête de faire ce que je fais, hein, parce que ça va être compliqué. Donc, évidemment, on fait quand même plus attention, mais j'ai une vie, on va dire, tout à fait classique. Et surtout, j'ai pas envie, justement, de m'enfermer dans une bulle. Et parce que c'est comme ça, de manière générale, qu'on se déconnecte. Et puis, je tiens quand même à dire que, objectivement, Je touche du bois, mais jusqu'ici, de manière générale, même si ça m'est arrivé d'avoir quelques accrochages, l'immense majorité des gens qui se manifestent à moi viennent le faire avec des réactions de bienveillance et de soutien. Donc, et d'ailleurs, plus les années passent et plus ces manifestations sont nombreuses, c'est donc bien d'ailleurs la démonstration que l'état d'esprit de la population évolue d'ailleurs.
Alors on va revenir sur le point de départ de votre carrière politique. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, je ne parle pas de votre, du début du militantisme ou du début de votre culture politique, etc., pendant votre enfance ou votre adolescence, mais votre élection en 2012 aux législatives. Vous avez 22 ans, vous quittez vos études pour cette élection-là et vous devenez la députée la plus jeune de l'histoire de la Ve République. Quels souvenirs vous en gardez de cette campagne ?
Alors déjà, un souvenir un peu vertigineux parce qu'il faut voir d'où je pars à l'époque. Donc, je suis étudiante en droit, en master 1 à Paris. Je suis engagée en politique, mais en tant que simple militante. Je n'ai pas tenu spécialement à avoir de responsabilité d'ailleurs dans le mouvement. Je ne me fais pas... remarquer. J'avais eu un bref passage aux élections régionales précédentes, mais sur une place non éligible, donc qui avait fait un peu parler à l'époque, mais qui m'avait un peu dépassé d'ailleurs, et j'en avais été un peu refroidie, parce que j'avais été un peu débordée par les événements, j'avais 19 ans à l'époque. Et il se trouve que les élections législatives approchant, mon grand-père, donc Jean-Marie Le Pen, m'enjoint à me présenter. Et mon premier réflexe, c'est évidemment de dire non. Enfin, je ne vais pas aller me présenter aux législatives, parce que d'autant plus qu'il me demande d'aller me présenter à Carpentras, donc dans le Vaucluse. Carpentras, qui est un... Je n'ai aucune origine vauclusienne. Hein. Moi, je suis bretonne d'origine, donc
mais
voilà.
Mais votre parti a une histoire particulière. Mais
voilà, exactement. Mon parti a une histoire... Enfin, mon ex-parti a une histoire particulière, puisque, en l'occurrence, dans les années 90, il y a eu la sordide affaire du cimetière juif profané de Carpentras, dont il s'avérera plus tard d'ailleurs que ça n'avait évidemment aucun lien de près ou de loin avec le Front National, que le pauvre monsieur Germont, dont la sépulture avait été profanée à l'époque, lui-même d'ailleurs était un adhérent et un soutien du Front National, mais le gouvernement de l'époque accuse le Front National d'être à l'origine de cette profanation en alimentant, soi-disant, des discours nauséabonds, bref, j'en passe. Sauf qu'il y a vraiment un avant et un après dans la diabolisation, ça entraîne une manifestation monstre à Paris, auquel participe d'ailleurs le président de la République, ce qui est assez inédit. On voit des effigies de Jean-Marie Le Pen qui sont empalées sur des bouts de bois, enfin, c'était extrêmement violent. Extrêmement violent. Et donc, c'est vrai que pour moi, ce mot résonnait comme quelque chose de très négatif, de sordide. Et mon grand-père, à l'époque, me dit il faut que tu ailles là-bas, parce qu'il faut que tu ailles laver le nom Le Pen. Bon, ce qui me semblait tout à fait évidemment inaccessible. Bon, après plusieurs échanges épistolaires avec mon grand-père, et croyez-moi, c'est pas très facile de dire non à Jean-Marie Le Pen. Hein. Il finit par m'écrire une lettre que j'ai gardée et qui a des mots assez forts et qui me dit « Voilà, Marion, avec l'éducation que tu as reçue, avec la famille que tu as, tu n'as pas le droit de renoncer au combat. Tu te dois de montrer l'exemple. Si même notre famille à nous ne s'engage pas, comment demander aux Français de s'engager ?» Puis il conclut par une phrase un peu vicieuse, j'ai envie de dire, en disant « Mais de toute façon, si tu es une vraie Le Pen, tu y vas. » Bon, alors là, c'est tout qui se mêle. Le sens du devoir, et puis en même temps l'orgueil quand même, voilà, donc je me résous à y aller et je pars vraiment, comme je vous le dis, c'est-à-dire avec un copain comme directeur de campagne, mon sac à dos, et je débarque à Carpentras, que je ne connais pas. Et puis là, j'ai eu la chance d'avoir une convergence de choses, une équipe qui s'est constituée très rapidement, une mayonnaise, si je peux dire, qui a pris, un lien particulier qui s'est fait avec les Vaucluziens tout de suite, un contexte politique favorable. Et voilà, j'ai vécu cette campagne de manière éclair, intense. Je vis d'ailleurs un moment très particulier. Je remonte à Paris pour passer mes examens de droit écrits. Donc je fais des allers-retours pendant la campagne. Je renonce à mes oraux parce que je me dis je ne peux pas faire et les écrits et les oraux. Et voilà. Et donc je suis élue et je passe les oraux en septembre. Donc, je suis élue députée, je passe mon été à bachoter mes oraux. Et j'arrive donc à Assas, ma faculté de l'époque, pour passer mes oraux en septembre avec les professeurs qui n'ont pas manqué de faire quelques réflexions assez drôles. Disant, ah, la représentation nationale arrive. Parlez-moi de finances publiques, madame le député. Donc, je peux vous dire que là, j'en menais pas large parce que je me dis, si je rate ces examens, je suis ridicule. Heureusement, bon, j'ai eu ces examens et ça s'est bien passé. Mais voilà, en tout ça, pour résumer, c'est une période extrêmement intense, tellement rapide que j'ai pas le temps en fait de l'analyser. Je marche, quoi, j'apprends en marchant. Et je suis élue députée, j'arrive à l'Assemblée. C'est un moment aussi très, très particulier, presque éprouvant un peu psychologiquement, parce que je me souviens de ce moment, je suis secrétaire d'Assemblée, puisque je suis la plus jeune, et donc les 577 députés doivent, enfin 76, doivent passer devant moi pour voter pour le président. Et à l'époque, je sais pas, 80% voilà, ne me serre pas la main. Il me passe devant avec mépris ou indifférence, et je me dis waouh, là ça va être très long pendant 5 ans.
Et à propos de la campagne, donc, vous parlez de ce lien que vous avez réussi à avoir avec les habitants. Est-ce que ça vous a conforté à l'idée que la diabolisation est une affaire parisienne qui ne concerne que l'espace médiatique, et qu'au final les gens que vous rencontrez dans la rue n'ont pas forcément la même idée que se fait la doxa dominante?
Ce qui est tout à fait vrai, c'est que la perception par les Français n'est pas la même que le petit monde politico-médiatique parisien. C'est absolument évident. Les gens sont relativement imperméables, d'ailleurs, aux arguments ou aux effets de diabolisation. Et puis surtout, on était dans un territoire, rappelons-le, qui cumulait beaucoup de... Moi, j'étais élue dans une partie du Vaucluse qui était un territoire en difficulté. Hein. J'étais pas dans le Luberon avec les résidences secondaires des stars. Hein. Donc c'est vrai que ça a cumulé problèmes migratoires, problèmes sécuritaires, problèmes de chômage. Un territoire qui était très riche il y a encore quelques décennies et qui s'est effondré en même temps que, d'ailleurs... l'agriculture, hein, qui portait notamment ce territoire. Et donc, des gens qui, dans leur quotidien, vivaient suffisamment de difficultés pour ne plus supporter de recevoir des leçons et des explications sur leur situation. Donc oui, plutôt. Et puis on était dans un département avec une histoire particulière, qui était l'un des départements qui a reçu les premiers l'immigration économique au départ pour justement le maraîchage, donc qui connaît cette problématique depuis longtemps. Donc pour toutes ces raisons-là, oui, ils étaient assez insensibles à ce que Paris pouvait leur dire. Et puis c'était l'un des départements poujadistes de l'époque, l'un des premiers départements poujadistes à l'époque de Poujade. Donc quand même avec cette mentalité très terrienne, que l'État sorte les mains de nos poches, nous laisse bosser, nous laisse tranquilles. C'est un territoire de gens qui travaillent, de gens enracinés. Voilà, donc c'est vrai que du coup, la réception là-bas a été plutôt facile par la population.
Qu'est-ce que vous vous dites 10 ans plus tard? Est-ce que c'était inconscient de s'engager dans cette bataille à 22 ans?
C'était audacieux. C'était audacieux, mais en fait, il faut comprendre aussi, à l'époque, personne n'imagine que je pourrais gagner. Et pas même moi. Pas même moi. Et d'ailleurs, ça fait, à l'époque, on a oublié. Donc je rentre à l'époque avec Gilbert Collard, nous sommes deux. Il n'y avait plus de députés depuis 86, donc ça fait un événement politique majeur. Quand j'arrive à l'Assemblée nationale, il y a une nuée de journalistes, enfin, personne ne s'y attendait. Donc c'est vrai qu'au départ, probablement j'y vais sans mesurer ce que ça implique. Voilà. Et puis après, bon, bah, je suis lancée dans le bain, et puis là, il faut assumer.
Et ces 5 ans de mandat, au final, c'est une expérience éprouvante à laquelle vous avez l'impression d'être pointé du doigt en permanence.
Je dirais pas éprouvante, parce que ça a été, c'était extrêmement enrichissant, formateur évidemment. Je vais pas vous dire que les moments à l'Assemblée étaient agréables, en ce sens qu'on était très isolés, on était deux. Ça a participé d'ailleurs d'une grande forme de frustration, parce que moi j'ai passé 5 ans dans l'opposition, et je me suis dit, bah, l'opposition c'est très bien, mais ça ne sert à rien. Voilà, enfin, ça ne sert à rien. Évidemment, heureusement qu'il faut qu'il y ait une opposition, parce qu'on est les porte-parole de gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Et puis, c'est évidemment la manière de préparer peut-être demain une accession au gouvernement. Mais ça m'a vraiment conforté dans l'idée de dire que je veux me donner les moyens de gagner et que nos idées gagnent. L'opposition confortable, ça n'est pas possible, ça n'est plus possible. Les défaites glorieuses, ça n'est plus possible. Cette frustration, elle est aggravée au moment des élections régionales de 2015. À ce moment-là, je suis candidate pour le Rassemblement national en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je fais le meilleur score de l'époque du Rassemblement national.
Front national à l'époque.
Front national, tout à fait. Et près de 47%, on a une avance considérable au premier tour. Cette élection n'est pas perdable, d'ailleurs, quand on discute avec les sondeurs de l'époque. C'est quelque chose d'incroyable qui se passe et on perd. Et on perd à 47%. Alors oui, c'est une très belle victoire, c'est formidable, mais à la fin, qu'on perde à 42 ou à 47 ou à 49, on perd. Voilà. Et le résultat derrière, il est pareil. Et je me rends compte qu'en fait, au deuxième tour, on n'arrive pas à transformer l'essai. On progresse, mais on est trop isolé. On n'arrive pas à gratter au-delà et puis à contrer la diabolisation qui se met en place à l'époque avec des réseaux dans la société civile puissants. Et ça, j'en ai tiré plein de leçons politiques qui ne sont pas d'ailleurs totalement décorrélées des choix que j'ai fait après et même de la stratégie que j'ai toujours défendue politiquement, qui est celle notamment de l'alliance des droites que je défendais déjà d'ailleurs à l'époque au Rassemblement national.
Parce que quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous prenez une alliance avec l'UMP que personne ne vous octroie ?
Oui, je veux à l'époque, je fais toujours le même discours d'ailleurs, je constate, on n'arrive pas, on ne peut pas gagner seul, le parti unique ça ne marche pas, ça n'a jamais marché pour personne dans l'histoire de la Ve République, hein. Tous ceux qui arrivent au pouvoir le font dans le cadre de coalitions, alors sous des formats différents. Mais je ne crois pas à cette idée. D'ailleurs, le Front National, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, lui-même en avait conscience. Il y a eu des tentatives d'alliance avec l'UDF, avec le RPR. Je ne crois pas du tout à cette mentalité de citadelle qui dit que voilà, il faut absorber tout le monde et que le parti peut lui-même, porter la voix de tous les courants qui peuvent exister, ne serait-ce qu'au sein de la droite. Et à l'époque, je tente des ouvertures. Je suis, par exemple, aux législatives pour faire non pas des listes noires de gens qu'il faut absolument battre, mais des listes blanches d'un certain nombre de députés UMP, proches des idées ou en tout cas partageant l'essentiel, en disant on ne présente pas de candidat face à eux parce que il vaut mieux les avoir avec nous et il vaut mieux que ce soit eux qui soient élus. Bon, ça n'est pas souhaité. Moi, je suis même de celles. Alors à l'époque, je suis un peu jeune, hein, on parle bien avant, mais qui regrette qu'il n'y ait pas, face à François Hollande, l'appel à voter pour Nicolas Sarkozy. Non pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'immenses choses à reprocher Nicolas Sarkozy, hein, on pourrait en faire le bilan, bien sûr, mais je considère qu'entre la gauche de François Hollande et Nicolas Sarkozy, il y a quand même un moindre mal. Voilà, et que si, à ce moment-là, le choix est fait d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy, au-delà du fait, l'idée, c'est pas de se rendre comptable de ce qu'il a fait avant, mais c'est la possibilité, peut-être, du coup, d'intégrer une majorité et à partir de là, de pouvoir peser sur cette majorité, changer les choses. Parce qu'une fois de plus, être dans l'opposition, parfait, mais à la fin des fins, on est toujours au même plan.
Donc ce mandat conduit à une forme de désillusion, même si vous expliquez que c'est une expérience très enrichissante, qui fait que vous décidez de vous retirer de la vie politique en 2017. Je me trompe pas si je dis qu'il y a une forme de désillusion et de rejet de la vie politique ?
Il y a plusieurs choses cumulées. Déjà, il y a une dimension personnelle. Je suis maman d'une petite fille à l'époque. Je vous le dire tel quel, je plante mon mariage parce que je ne suis pas assez là, parce que je ne suis pas assez présente, assez dans mon couple, dans ma famille. Parce que la politique, je suis jeune, elle me dévore, elle m'absorbe, elle me passionne. Et je n'ai pas la maturité, je pense, de faire la part des choses à ce moment-là. Et donc je le vis très durement, je me sépare du père de ma fille, et puis je me rends compte que elle est toute petite, je ne lui ai pas consacré assez de temps. Donc ça, c'est une première chose qui vraiment me perturbe. J'ai par ailleurs, je vois de moins en moins mes amis historiques, j'ai des amis de lycée, des amis d'enfance, et je suis absorbée par la vie politique. C'est souvent la tendance, c'est pour ça qu'on dit que les politiques sont souvent dans des bulles, parce qu'en fait, comme c'est un rythme très particulier, on a tendance à s'entourer de gens qui ne font plus que de la politique et qui ne sont plus que sur le même rythme. Donc on parle tout le temps politique, on mange politique matin, midi et soir, et tout le reste disparaît. Et à ce moment-là, j'ai quelqu'un dont j'étais très proche, qui a été l'un des premiers amours de jeunesse avec qui j'ai vécu, qui se suicide. Et je devais le voir et je ne l'ai pas vu parce que j'ai pas pris le temps, parce que voilà. Et je me dis, mais en fait, ça, c'est prise de conscience. Donc ça, c'est la dimension personnelle. Et puis en parallèle de ça, donc j'ai l'impression que je m'éloigne de l'essentiel. Et puis je me dis, on ne peut pas défendre sa grande patrie si on n'est même pas capable d'assumer ses devoirs à l'égard de sa petite patrie, qui sont quand même sa famille. Et puis des gens qui on doit des choses, qui sont des amis, qui sont des gens vrais, qui ne nous lâcheront pas quand les choses iront mal en politique. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai la dimension politique, que je vis mal. Non pas parce que je suis dans l'opposition et que c'est dur, mais dans mon propre mouvement, à l'époque. parce que je me sens isolée, je me sens pas libre de pouvoir défendre ce en quoi je crois à l'époque, sur le plan idéologique et sur le plan stratégique. Sur le plan idéologique, je suis pas d'accord avec la position européenne de l'époque qui était la sortie de l'euro en 6 mois. Je suis déjà de celles qui utilisent le mot grand remplacement. Je me fais taper sur les doigts
vous
à l'époque.
Pas sur la ligne de Florent Philippot.
Ça, voilà, exactement. Je n'ai pas la même position économique. Probablement, voilà, moins étatiste, plus attaché à la discipline budgétaire, aux réductions des dépenses d'État, voulant lutter contre l'assistanat. Bon, je vous la fais rapide, mais il y a, bon, voilà. Et le problème, c'est qu'à la limite, si j'avais eu le droit de défendre ça dans le cadre d'un courant, mais c'est pas du tout la mentalité de l'époque. Les courants n'ont pas le droit d'exister, il y a pas une tête qui doit dépasser. Donc, c'est un sujet de conflit régulier dont les journalistes s'emparent, c'est monté en épingle. Du coup, ça se passe mal avec Marine et l'entourage, et je le vis mal, en fait. Voilà. Et par ailleurs, il y a cette divergence stratégique, puisque, comme je vous le disais, je voulais qu'on crée des liens avec la droite, et il n'y avait rien à faire, c'était nous contre tous. Voilà. Bon. Quand je vois tout ça, plus la dimension perso, je me dis, je vais faire autre chose de ma vie, et puis en plus, je le vis plutôt bien à ce moment-là, ça me paraît évident, parce que de toute façon, je me dis, si je ne pars pas maintenant, je ne partirai jamais. Parce que la politique, on sait comment ça marche, plus on y reste longtemps, plus c'est compliqué, et puis d'ailleurs, ça n'a pas été facile derrière. Et je me dis, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de respirer, j'ai envie d'avoir une aventure entrepreneuriale, j'ai envie de monter, de créer quelque chose, voilà, j'ai envie d'acquérir d'autres compétences, de voir d'autres gens. Donc ça me paraît être une évidence à un moment donné. Ce départ n'est pas compliqué pour moi, et j'en suis très heureuse, et je le regrette pas, même maintenant.
Et il est compris par votre entourage, et à la fois au sein du Front National, mais vos amis, vos proches, et même l'opinion publique, vous avez l'impression qu'on vous comprend dans cette démarche?
La plupart des gens, non. Certains le vivent mal, beaucoup m'en veulent même, je dirais, notamment dans le Vaucluse. Et pour ceux qui me connaissent et à qui j'ai le temps d'expliquer, oui, bien sûr, ils le comprennent. Ça ne veut pas dire qu'ils en sont heureux et qu'ils l'acceptent. À l'époque, bah voilà, j'ai la vie politique devant moi. Mon destin est un peu tout tracé, y compris à l'intérieur du mouvement. Je rappelle, je suis la petite fille du fondateur. Bon, il y a plein de choses évidentes, mais moi, j'ai pas de doute. Voilà, j'ai pas de doute, et puis je sais que la politique, évidemment, est quelque chose qui fera partie de ma vie, mais à ce moment-là, je suis pas du tout dans une stratégie, je suis pas dans un calcul, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, et je le fais, et j'en suis très heureuse.
Et à propos de votre vie de famille dont vous avez parlé, l'envie d'être présente pour vos filles, etc., est-ce que le confinement vous a aidé?
Alors moi, j'ai très mal vécu le confinement, hein, donc je vais pas vous dire que je l'ai vécu comme un moment de pause joyeuse familiale, parce que moi, le délire dans lequel on est entré à ce moment-là, les atteintes aux libertés fondamentales sans aucune mesure retenue, rationalité, je l'ai pas bien vécu. Maintenant, ces 5 ans, oui, je les ai bien sûr vécues à côté de mes filles. D'ailleurs, je me suis remariée, j'ai fait une autre petite fille, donc j'ai passé du temps et j'ai tiré beaucoup de leçons de cela. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je ne referai pas les mêmes erreurs. Je ferai toujours la part des choses entre voilà, mes devoirs personnels, mes devoirs politiques. Et je pense avoir beaucoup plus de recul et de sérénité sur le rouleau compresseur que peut être la politique parfois. Et donc savoir garder la tête froide là-dessus.
Mais alors typiquement, ça passe par quoi? Comment vous avez réorganisé votre quotidien pour être à la fois à la maison, à la fois sur les plateaux et bientôt et tête de liste?
Je veux dire que de temps en temps, je dis non à des choses. Je sais que la politique ne s'arrêtera pas de vivre si je n'ai pas fait le tweet dans l'heure, si je n'ai pas fait telle émission tel jour. Voilà, il y a une espèce de frénésie dans la vie politique. On a le sentiment que si on fait pas ça, c'est terrible parce que ça y est, les autres ont réagi et nous, on n'a pas réagi. Et puis si on fait pas telle émission, ça y est, tout va s'arrêter. Voilà, je pense qu'il faut garder la tête froide. Je sais que la politique, c'est une œuvre de temps long. C'est de la constriction pas à pas. Et que parfois, les gens ont du mal à se projeter à moyen long terme. Et donc, il faut être capable de sortir un peu la tête de l'eau. Et donc, c'est une question d'organisation. Alors, je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas que je fais tout bien, hein, loin de là. Mais en tout cas, j'ai voilà, je pense que je sais plus le canaliser qu'à l'époque.
Et à propos de cette pause en politique, pendant 5 ans, vous êtes observé de près, vous êtes attendu par la droite, vous êtes espéré. Il y a des enquêtes, des articles en permanence pour savoir ce que prépare Marion Maréchal, alors que vraisemblablement, vous ne préparez à rien sur le court terme. Comment vous le vivez, ça, cette attente
Je le vis avec un certain détachement, parce que je sais que ça, c'est une phrase de De Gaulle, mais que l'éloignement crée le prestige. Et que, évidemment, déjà, les Français adorent les politiques qui ne sont plus en politique. Enfin, ils les aiment toujours plus quand ils n'y sont plus que quand ils y sont. Et que, évidemment, le fait d'avoir une parole rare, les gens projettent sur vous toute forme d'attente, toute forme de, de position. Voilà, donc franchement, je le vis avec un certain détachement. Je fais très, très, très peu d'émissions. Je me passe très, très bien, moi, de la vie publique. C'est pas du tout la notoriété, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît, qui m'excite, qui me... Non. Honnêtement, et puis je le vis d'autant plus sereinement que moi j'ai grandi avec la vie publique du fait de d'une famille exposée, donc c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, donc ça me grise pas, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je m'en passe très bien. Donc je regarde ça avec un certain détachement, mais quand même au fond de moi une certaine pression, c'est-à-dire que on revient à ces mots qui ont fait tilt de mon grand-père lorsque je me présente, c'est ce sentiment de dire bah tu as quelque chose entre les mains. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de cette attente, de ces talents que les gens te prêtent? Et c'est vrai que ça finit par me travailler quand même. Preuve en est d'ailleurs, je fais ce choix parce qu'à un moment donné, je me dis bon, je peux pas rester à côté, quoi. Ce serait une forme d'égoïsme. Donc voilà. Je prends le temps quand même, durant ces années, de m'éloigner de la politique. Je monte cette école l'ICEB de sciences politiques et de management. Je la fais grandir. Je reprends aussi les études. Je fais un master en formation continue à l'EM Lyon. Voilà, en management. Et en fait, parce que c'est vrai que quand je ne viens pas du milieu entrepreneurial. Je n'ai pas fait ce genre d'études, j'ai fait du droit. Donc quand je me dis qu'il faut monter cette école... on le fait avec une équipe. Je dis, il faut quand même que j'ai un peu de compétences dans le fait de monter un projet, compétences comptables, voilà, économiques. Et donc, je vais faire ce master en formation continue pendant un an et demi en parallèle. Mais voilà, je regarde ça avec au départ un détachement, et puis à la fin, évidemment, ça finit quand même par me mettre une pression.
Et est-ce que donc l'entrepreneuriat, dès 2017, vous montez un master sur le management, il y a là-dedans une quête de comprendre et savoir ce qu'est l'autorité pour être une grande chef plus tard?
Non, je ne le vis pas comme ça, c'est-à-dire qu'en fait... au départ, je fais partie de la génération Manif pour tous aussi. Je me suis engagée au moment du mariage et de l'adoption homosexuelle propulsée par Madame Taubira. Et je fais partie de cette génération qui prend conscience à l'époque de l'importance du combat culturel. Notamment d'ailleurs par la défaite, par cette défaite de fait politique, malgré la mobilisation de millions de gens, voilà, une ferveur, un enthousiasme. Parce qu'on se rend compte que les combats ne sont pas suffisamment anticipés, que les combats ne sont pas suffisamment menés dans la société civile. Tout est attendu de l'État, tout est attendu du combat électoral, qui est évidemment indispensable, mais qu'à un moment donné, les combats d'opinion, ils se font aussi au sein de la société civile et de manière très concrète par des initiatives. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai toujours en tête une intime conviction qui ne m'a jamais lâchée, d'ailleurs, que en fait, pour moi, les deux combats qui peuvent changer les choses, c'est bien sûr le combat électoral, parce qu'il peut changer les choses par le haut, mais c'est aussi le combat par le bas, c'est-à-dire par la société, et notamment, et peut-être même principalement, par la question de l'éducation, et donc de l'enseignement. Et voilà, si je crois que... Quand, d'ailleurs, souvent, les gens me disent, oui, comment je peux m'engager? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Parce que je ne me sens pas capable de faire la politique électorale. La première chose que je leur dis, dans ce cas-là, monter des initiatives éducatives, d'enseignement. Parce que c'est là qu'on va créer des sanctuaires de conservation, de transmission, de résistance. Et c'est là où on va pouvoir sauver tout ce capital immatériel qui est en train d'être détruit, d'être abandonné, d'être sali, d'être oublié, d'être culpabilisé et qu'on va pouvoir tout transmettre aux enfants. C'est là où on va pouvoir continuer à former une élite. C'est là où on va pouvoir continuer à renoncer au relativisme ambiant et à transmettre le vrai, ou en tout cas à le chercher, le vrai, le beau, le juste. Donc je me dis, pour moi, c'est le combat central. Voilà.
Vous croyez en la subsidiarité?
Oui, je pense que quand tout s'effondre, il ne faut pas que le citoyen attende tout d'un homme providentiel ou de l'État. Il doit se prendre en charge, en main. Et lui-même, il doit se dire qu'est-ce que je peux faire pour pallier concrètement à ça? Et alors, le jour où on est au pouvoir, réformer l'éducation nationale, c'est très bien. Mais en attendant, que des initiatives se créent, voilà, qui montrent d'ailleurs en parallèle, en miroir, l'effondrement de ça. Et donc, bref, j'avais toujours cette idée en tête. Et donc ça a été assez évident pour moi. Alors j'ai passé quelques mois d'abord à chercher un travail dans le privé, mais bon, vous savez, quand vous êtes Marion Maréchal, pas quelque chose de très facile. Même ouvrir un compte en banque, hein, c'est pas très facile quand vous êtes une personne politique exposée.
Il y a beaucoup de refus.
Oui. Je n'arrivais pas à ouvrir un compte en banque. Je me suis fait jeter de plusieurs banques. Enfin, voilà, c'est des petites choses. Mais et en fait, du coup, quand je me dis bon, j'avais cette idée d'entrepreneuriat depuis longtemps autour de l'éducation, je me dis bon, bah, on y va. Voilà, c'est le moment en fait. Arrête de te poser des questions. Ça va pas être simple. Tu vas t'exposer. Les journalistes attendront au tournant pour dire que c'est nul, que c'est raté, que voilà. Mais je me dis voilà, je le fais. J'ai envie. Puis il y a pareil une fois de plus une conjoncture particulière qui fait qu'à ce moment-là, j'ai un autre ami qui, lui, a une idée un peu similaire, en tout cas complémentaire. On mixe nos deux idées. Je pense évidemment à Thibaut Monnier, qui a été mon adjoint et qui est aujourd'hui le nouveau directeur général. Et on crée l'ICEB. Voilà, on y va, on lève des fonds. Et puis cette école crée un enthousiasme. On a beaucoup de soutien privé. On a des étudiants qui sont au rendez-vous. Et voilà, et avec les années, une filiale sera montée en Espagne. Un projet aujourd'hui est en Italie. On a des partenariats dans différents pays, notamment la Pologne et la Hongrie. Voilà, donc c'est un projet qui vit et qui tient ses promesses parce que les étudiants derrière, en sont heureux et deux, s'insèrent professionnellement.
Ça vous révolte pas d'être refusé pour ouvrir un compte en banque, d'être diabolisé quand vous lancez une école, etc. Comment vous avez passé ce cap-là ?
Je vais vous dire, ça me traumatise pas outre mesure, puisque moi j'ai grandi dans une famille depuis l'enfance où l'adversité était quand même omniprésente. C'est-à-dire, on a toujours été, en ce qui concerne Marine Le Pen, fille 2, moi, petite fille 2, dès l'école publique. Moi, je suis un produit de l'école publique. Hein. J'ai fait que 2 ans en privé dans toute ma scolarité. J'ai fait la fac, donc même après le bac, j'étais dans le public. Donc, en fait, on a grandi dans cette opposition. On a grandi en devant toujours se justifier, et d'ailleurs même à l'époque enfant, de choses dont on n'était pas responsable. Donc je pense que ça a toujours fait partie de nos vies, ce qui fait qu'à partir de là, bah, y a quand même un relatif détachement sur le jugement, sur la mise au ban, ou même sur les difficultés du quotidien. Et puis surtout, à côté de ça, moi parce que là je vous parle voilà, des petites difficultés, mais à côté de ça, ça m'a tellement apporté à côté. C'est-à-dire qui, aujourd'hui, dans sa vie ou dans son travail ou sa fonction, en l'occurrence son mandat, a la chance de pouvoir, le matin, être avec un chef d'entreprise qui exporte à l'international, à midi avec un professeur, le soir avec un agriculteur, toute génération, des hommes, des femmes. Enfin, c'est un enrichissement extraordinaire. J'ai vu des choses jeunes incroyables. J'ai pu visiter la base de Toulon, j'ai pu me rendre dans des prisons, j'ai voyagé à l'international. Donc je ne vais pas me plaindre de la situation parce que je trouve que le combat politique apporte beaucoup plus, enrichit beaucoup plus, même personnellement, humainement, moralement, qu'il... Voilà, et oui, à côté de ça, il y a des difficultés, mais en même temps, le jeu, on veut aussi la chandelle. Parce que derrière, si ces difficultés, en parallèle de ce que demain ça peut avoir comme effet à l'échelle du pays, quand je sais que moi je me lève le matin et encore aujourd'hui c'est ce qui m'anime, je le fais pour mes filles. Je veux dire, je le fais parce que je ne veux pas qu'elles aient à faire ce que je n'aurais pas fait. Voilà. Et c'est-à-dire que je veux pas qu'elles aient à assumer des choix que je n'aurais pas fait ou qu'elles aient à assumer des renoncements que j'aurais eu ou une lâcheté ou une facilité. J'ai pas envie qu'elles aient à pallier finalement mes carences, et donc c'est ce qui m'anime tous les jours. Et en parallèle de ça, bon, c'est pas très grave.
Est-ce que vos filles aussi iront à l'école publique pour vivre ce que vous avez vécu, ou alors, vous allez les éduquer différemment?
Moi, j'ai mis mes filles à l'école privée, je vais vous le dire sans aucun scrupule. Je regrette beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'évidemment, l'école privée par essence est payante, hein, donc c'est très injuste pour aujourd'hui les Français qui n'ont pas les moyens de se payer l'école. Je vais pas me lancer sur aujourd'hui la vision que j'aurais de l'éducation, mais je veux que mes filles sachent lire, écrire, compter. Je veux qu'elles connaissent leur histoire. Je veux pas qu'elles soient victimes de toutes les propagandes LGBT et woke qui sévissent à l'école. Je veux pas qu'on leur explique qu'elles sont racistes parce que leur mère est contre l'accueil des migrants clandestins. Enfin non, je veux pas ça. Voilà. Moi, je l'ai vécu aussi, probablement d'une manière moindre que ma mère ou mes tantes. Mais enfin, quand même, j'ai eu des profs qui se sont très mal tenus, hein, disons-le. Je dis pas que ce serait forcément comme ça aujourd'hui et que tous le sont. Il y a des profs qui se tiennent très bien. Mais aujourd'hui, l'éducation nationale est en faillite. Voilà. Et donc, moi, je vais pas simplement, par principe, pour mettre mes enfants à l'école publique, alors que j'ai toujours combattu tout ce qui aujourd'hui est en train de cette faillite. Je vais pas faire payer ça à mes enfants et je considère ne pas avoir à me l'imposer. Donc aujourd'hui mes fils sont en école privée et de fait ce sont des écoles exigeantes mais qui sont capables par des choses toutes simples, hein, des recettes connues qui étaient celles qui fonctionnaient avant, d'avoir un très bon niveau. C'était l'une des écoles que j'ai faites quand j'étais jeune, la seule école privée que j'ai faite. C'est-à-dire en l'occurrence cette école en effet tenue par des religieux, c'est une école catholique. Dans lequel je retrouve finalement des recettes classiques, c'est-à-dire il y a l'uniforme déjà, la blouse, et ça évite que les enfants soient jugés ou rejetés pour des raisons sociales, de manque de moyens, obsédés par les marques. C'est une école mixte au primaire, mais de filles après, ce qui évite qu'en effet les jeunes gens se déconcentrent sur des choses, et puis ça laisse aussi émerger des camaraderies différentes. Voilà, même si moi je suis pas une obsédée de la fin de la mixité, mais je constate qu'en l'occurrence il y a des enfants à qui ça convient bien. Et puis tout simplement, c'est beaucoup de dictées, beaucoup d'écriture, beaucoup de par cœur, concentration sur les fondamentaux, l'histoire chronologique, méthode syllabique de lecture, de l'autorité, mais aussi de la valorisation, croix du mérite. Quand un enfant a de bons résultats, on le valorise, on le montre. On n'a pas peur d'être exigeant à l'égard des enfants, on n'a pas peur de les noter, mais on les note justement pour les faire progresser, donc les tirer vers le haut. Donc voilà, tout ça, finalement, une fois de plus, c'est pas révolutionnaire. Il n'y a pas de politique à l'école, pas d'intervention intempestive de je ne sais quelle association subventionnée par l'argent public pour expliquer aux enfants qu'ils peuvent changer de sexe. Voilà. Donc les enfants sont concentrés sur l'essentiel. Et voilà. J'aimerais que demain, par le combat que je mène, on puisse offrir par l'éducation nationale gratuite et accessible à tous cette exigence et cette réussite.
Je reviens sur la politique. Puisque dans quelques mois auront lieu les élections européennes, qu'est-ce qui est plus difficile pour vous qu'est-ce qui a été plus difficile entre être candidate à 22 ans pour les législatives pour le Front National à une époque où le Front National est encore diabolisé et être tête de liste aux européennes avec une équipe derrière, puisqu'il y a une dimension collective dans ce type d'élection, laquelle des échéances est plus compliquée à aborder?
C'est assez différent parce que les défis quand j'ai 22 ans, ce sont des défis presque plus personnels, parce que je suis pas armée pour affronter tout ça, je suis jeune, j'ai forcément une forme d'immaturité, je suis pas expérimentée, donc j'ai tout à apprendre. Aujourd'hui, j'arrive à 33 ans, j'ai acquis une expérience et des compétences, donc je suis probablement mieux armée là-dessus. En revanche, le défi, il est plus difficile, en ce sens qu'il faut que je reparte de zéro, il faut tout reconstruire. Déjà parce qu'en plus, j'ai arrêté la politique pendant 5 ans, donc je suis sortie du jeu pour beaucoup de gens, comme vous le disiez tout à l'heure, qui m'ont pas forcément identifié, qui n'ont pas forcément me connaissent pas forcément, qui connaissent pas forcément ce que je pense, voire qui savent pas aujourd'hui où je me situe. Et il faut tout reconstruire dans une aventure politique nouvelle aujourd'hui avec Éric Zemmour. C'est un tout jeune parti qui a 2 ans d'existence, alors qui est un très bel outil aujourd'hui, qui est prêt pour ces élections. On a eu une année assez ingrate justement parce que c'était une année de coulisses, de construction. Il a fallu mettre en place les fédérations, former les cadres, et installer tout le fonctionnement classique d'un parti. Donc il faut tout reconstruire, voilà. Et là, pour le coup, je ne peux compter que sur moi-même et mes nouvelles équipes. Il n'y a pas de marque à l'époque, forcément. Je ne vais pas mentir, moi je bénéficie d'une marque qui est celle du Front National, qui a plus de 40 ans d'existence, et qui du coup, dans l'esprit des Français, spontanément, renvoie à immigration, sécurité, donc des thématiques très bien identifiées, où d'ailleurs les gens ne perçoivent pas forcément les évolutions, il y a des mots instantanément qui viennent sur cette marque, et puis je bénéficie d'une autre marque indéniable, qui est celle du nom Le Pen. Enfin, je ne veux pas m'enlever tout mérite dans l'élection, alors j'y reviens dans l'élection de quand je suis députée en 2012, mais de fait évidemment que ça joue, enfin ce serait mentir de dire le contraire, ne serait-ce que par l'attraction médiatique que ça suscite, donc l'enjeu national que ça devient, donc voilà. Et aujourd'hui j'ai choisi une voie différente, donc je peux compter que sur moi-même d'une certaine manière et pas sur ces marques.
Et à propos de cette élection, en 2019 il y avait un taux d'abstention d'à peu près 50%. Vraisemblablement, ça devrait être identique, si ce n'est plus, dans quelques mois. Qu'est-ce que vous comptez faire sur les mois qui arrivent pour rendre la politique plus attrayante et pas uniquement source de conflits, d'hostilité?
Mais il y a un enjeu sur déjà la bonne compréhension de ce qu'est cette élection. c'est-à-dire, et de ce qui peut se jouer derrière. Parce que là, beaucoup de gens l'abordent uniquement comme une compétition strictement nationale ou une simple compétition avec Emmanuel Macron. Et évidemment que ça fait partie de la dimension. Mais derrière, il y a un véritable enjeu qui est quand même celui d'une majorité nouvelle potentielle au Parlement européen, donc d'une nouvelle présidence de la Commission, donc d'un changement de ligne politique de l'Union européenne. Et quand aujourd'hui, on connaît le poids de l'Union européenne, pour le meilleur et pour le pire, et souvent pour le pire malheureusement avec Ursula von der Leyen, sur nos vies quotidiennes, dans tous les aspects de notre vie quotidienne, c'est un enjeu fondamental, décisif. Et ce qui doit être entendu, c'est qu'on a depuis un certain nombre de mois, un certain nombre d'alliances et d'unions des droites qui arrivent au pouvoir en Europe. Il y a une trajectoire, il y a une tendance, et donc il n'est pas du tout exclu qu'on ait l'opportunité de voir le centre de gravité du Parlement européen aujourd'hui tenu par un bloc centriste allié aux socialistes et aux verts, se déporter vers un centre de gravité plus à droite, d'une droite plus authentique, plus conservatrice, plus identitaire. Et donc là, évidemment, les rapports de force changent et c'est un enjeu fondamental. Donc j'espère réussir à faire entendre ça, à exprimer cela, et de ce fait-là, convaincre les Français d'aller voter ce jour-là.
Quelle leçon de l'échec de la présidentielle de 2022 vous allez tirer pour changer quelque chose peut-être dans la méthode, faire de la politique différemment pendant cette campagne ?
Alors, déjà, c'est vrai que la campagne de 2022, moi, j'y suis pas de manière active parce que j'arrive assez tardivement. C'est une décision compliquée et difficile, donc j'ai pris le temps de la prendre. Je suis enceinte à l'époque en plus, donc je peux pas m'y jeter corps et âme. Donc c'est vrai que je suis pas partie prenante. J'arrive d'ailleurs en soutien d'Éric Zemmour. Au départ, je ne rentre pas. Je prends la décision de rentrer après parce que je me dis finalement, je suis arrivée en soutien, mais j'ai envie de participer plus directement à cette aventure politique, à cette construction politique, parce que je considère que ça répond à une ligne particulière à laquelle je crois, qu'il y a des Français qui sont orphelins et qui attendent qu'on réponde à cette ligne, et que ça peut être un enjeu ou un outil de la recomposition de la vie politique dans les années à venir. Bon, bref. Et donc c'est un exercice différent parce qu'une européenne, c'est pas une présidentielle. En plus, on est passé d'une aventure très personnelle, forcément, parce que c'est une présidentielle d'Éric Zemmour, à une aventure aujourd'hui collective avec un parti. Donc c'est pas le même exercice. Mais déjà, je pense qu'il va falloir être très au contact des Français. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une campagne médiatique. Mais je pense que ça va aussi beaucoup passer par le terrain, par des tournées en région. Et d'ailleurs, c'est ce que je commence déjà à faire aujourd'hui. On allait faire une tournée de la presse quotidienne régionale. Parce que je sais aussi que beaucoup de Français aujourd'hui sont dégoûtés, désintéressés de la politique, ne suivent plus l'actualité politique. Donc quand on fait des émissions sur LCI, sur BFM, c'est très bien. Mais en fait, on parle à une toute petite catégorie de la population. Donc en fait, c'est à nous de trouver la manière, non pas d'attendre que les Français viennent à nous, mais nous d'y aller et de les toucher par différents leviers. Et ça, c'est un défi quotidien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, non seulement il y a un désintérêt de la politique, il y a une dépolitisation générale, mais en plus, il y a une archipélisation de la société. Je ne vais pas y revenir, mais la société se constitue de plus en plus en blocs fragmentés. Et donc, toujours à essayer de créer le lien et sans alimenter ces fractures, sans surfer électoralement dessus. C'est facile de dire, il y a la France des oubliés, la France des gagnants de la mondialisation, la France des métropoles, la France périphérique des campagnes. Mais notre rôle, c'est aussi justement de faire en sorte de limiter ces brèches. Donc de parler aux uns et aux autres et de faire en sorte de les convaincre de la nécessité d'agir en commun, de leur dire qu'ils ont des choses à partager et un destin à construire ensemble. Et ça, dans cette société telle qu'elle existe aujourd'hui, extrêmement fracturée, ajouter évidemment à cela la fracture ethnico-religieuse, parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'on vit, c'est évidemment pas simple. Enfin, c'est un défi inédit d'ailleurs.
Et c'est ce que vous préférez faire d'ailleurs, d'aller sur le terrain ? Dans l'exercice de la politique ?
Moi, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup être en contact direct avec les gens. C'est toujours le plus enrichissant. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne aussi un peu de densité, même quand on va dans un média. Parce que quand on prépare un média, on a toujours une idée un peu générale par un travail méthodique de quelle proposition, quelle analyse. Mais en fait, ce qui conforte et ce qui donne de la densité derrière, c'est de confronter ce travail à un vécu, et à une véritable expertise, parce que telle personne qui est dans tel secteur la connaît. Donc je trouve que, de toute façon, la politique, sans ce côté charnel, c'est robotique, ça marche pas.
Parce qu'il y a des convictions nouvelles qui sont apparues. C'est-à-dire l'évolution de la société a été telle qu'il y a des nouvelles causes qui maintenant sont chères à vos yeux et qui fait que peut-être vous avez davantage de choses à proposer aux Français que quand vous vous êtes engagé en politique en 2012.
Alors, j'ai pas changé, enfin, j'ai pas une idée particulière d'un changement fondamental. Alors, après, évidemment, selon l'évolution économique, il peut toujours y avoir des ajustements, parce que c'est logique. Mais on va dire que la philosophie générale qui m'anime, dont découlent ensuite toutes les propositions, comme elle a pas changé, enfin, voilà, j'ai une certaine idée de l'homme dans la politique, de l'homme dans la société, j'ai une certaine idée du bien commun, j'ai une certaine idée de la place de la politique par rapport à l'économie. Donc tout ça fait qu'ensuite, bon, y a, j'espère en tout cas, une forme de cohérence dans les propositions qui en découlent. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'en revanche, il y a des défis nouveaux qui arrivent. Voilà, il y a des phénomènes de société nouveaux qui arrivent. On parle très souvent du wokisme, qui est un terme un peu abscon. La plupart des Français, encore d'ailleurs, ne voient pas très bien ce qu'on met derrière, mais qui est un espèce de magma sectaire et idéologique qui nous arrive du monde anglo-saxon et des universités américaines, qui est littéralement l'éveil des minorités. Minorités raciales, minorités religieuses, sexuelles. Contre, parce qu'il faut bien se réveiller face à quelque chose, donc en l'occurrence face à ce qu'ils considèrent être l'ennemi commun, c'est-à-dire, pour caricaturer, le mâle blanc hétérosexuel chrétien. Et donc derrière, il y a une espèce de magma qui va de du racialisme noir au néo-féminisme, au transgenrisme, voilà, et donc et à l'islamisme et à tous ces sujets aujourd'hui qui se mêlent et qui contribuent aussi à vouloir culpabiliser l'histoire, réécrire l'histoire, effacer l'histoire. C'est symboliquement très bien représenté par la volonté de déboulonnage de nos statuts, typiquement. Donc ça, c'est vrai que c'est une nouvelle forme de défi qui apparaît en politique et qui devient central, parce que l'un, par exemple, de ces attributs, on parlait tout à l'instant du transgenrisme et de la théorie du genre. Alors, j'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le devenir à l'échelle de l'histoire de ce délire, parce que je pense que le wokisme, ces mots sont pas de moi, c'est un article dans la Revue des Deux Mondes, mais qui disait que c'est une idéologie sans cohérence et sans humour, donc à partir de là, et sans espérance surtout. Donc, je suis sûr qu'à l'échelle de l'histoire, elle sera balayée, ne serait-ce que par le réel. Mais en revanche, d'ici là, elle peut faire des dégâts considérables. C'est-à-dire que sur les 10-15 ans qui viennent, voire 20 ans, donc c'est-à-dire sur la génération de nos enfants, elle peut sacrifier une génération, voilà, et de manière physique. Quand on parle de la théorie du genre, aujourd'hui, ces enfants cobayes à qui on met dans la tête qu'ils peuvent changer de sexe comme de chemise avec certains pays en ont fait l'expérience douloureuse, ils reviennent d'ailleurs dessus, hein. Je pense à la Suède. On explique que pour qu'un enfant se sente mieux dans sa peau, on va lui mutiler un bout de bras, lui construire un sexe artificiel, lui couper les seins, lui faire prendre des hormones qui peuvent le rendre stérile, et à partir de là, tout ira mieux, Madame la Marquise. Je veux dire, c'est monstrueux. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est monstrueux. Il faut se dresser face à cela. Alors, je considère qu'en France, et ce qui me rend d'ailleurs très optimiste, contrairement à d'autres, sur l'avenir français, c'est qu'il y a des anticorps en France quand même. Indéniablement, le wokisme, même s'il est malheureusement très, très, très avancé dans les universités françaises, j'ai envie de dire dans la société au sens large, même dans le monde médiatique, il y a des anticorps en France qu'il n'y a pas dans le monde anglo-saxon. Pour différentes raisons, je pense que c'est la convergence de deux choses. D'une part, l'héritage quand même, qui n'a pas totalement disparu dans le monde médiatique, d'un socialisme un peu à la papa, universaliste, laïque, voilà, qui n'est pas du tout dans le logiciel racialiste, où tout est ramené finalement à ses origines et à sa couleur de peau. C'est ce que disent les minorités racisées, comme on dit maintenant. Donc parce qu'on est noir, on est victime par essence, et parce qu'on est blanc, on est coupable par essence. Et donc là, à partir de là, le dialogue est impossible. C'est horrible d'ailleurs, c'est une régression civilisationnelle extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ramène les gens à leur couleur de peau en faisant fi de tout le reste, c'est-à-dire la langue, la culture, la civilisation, les mœurs. Enfin, et ce qui est terrible, c'est que c'est la mort de la politique, en ce sens que c'est le conflit assuré, puisque si par essence vous considérez que telle personne est coupable parce que vous l'essentialisez et que tel autre est victime parce que vous l'essentialisez, bon bah c'est, en fait, il n'y a plus de dialogue possible. Voilà. C'est la fracture inéluctable. Et je pense que sur une société qui est déjà très, très à vif comme la société française, on l'a vu avec les émeutes de cet été, rajouter cette dimension racialiste, c'est plus que mettre de l'huile sur le feu, quoi. C'est souffler dessus à grand vent, donc c'est terrifiant. Et donc je me perds dans ce que je voulais vous dire.
Mais j'aimerais bien ouvrir un autre chapitre avec vous. Est-ce qu'on peut parler de votre enfance, par exemple? Puisque tout à l'heure vous avez dit quelque chose, vous avez dit que vous aviez une enfance assez classique, même si je crois plutôt qu'elle est singulière, puisque vous avez donc été éduqué par votre mère, Yann, et de son conjoint Samuel Maréchal, qui donc s'est marié avec votre mère 2 ans après votre naissance. Votre père biologique est arrivé plus tard dans votre enfance, me semble-t-il. Est-ce que cette particularité vous donne une expérience des questions de société, du rôle des parents? Qu'est-ce que vous en tirez?
L'histoire est très simple. Moi, je suis ce qu'on appellerait classiquement une grossesse non désirée, mais je dirais même pas ça, parce que ma mère s'est jamais posé la question de me garder. Donc avec un homme qui n'était pas son compagnon de l'époque, qui n'a pas souhaité me reconnaître à l'époque. Et donc je suis élevée 3 ans par ma mère. Je m'appelle donc pendant 3 ans Marion Le Pen. Et je suis reconnue, adoptée par la seule figure paternelle pour moi, en fait, qui est Samuel Maréchal. Et donc je deviens à 3 ans Marion Maréchal. Et je suis élevée par Samuel et Yann. Et cette dimension-là de ma vie a, je pense, quand même, oui, des conséquences sur ma vie politique, pour une raison simple, c'est que quand on est adolescent et qu'on est en crise existentielle, on se pose toujours plein de questions. Alors moi, j'ai vécu ça relativement sereinement, parce que ma mère a eu l'immense intelligence de ne jamais me cacher ça. Je n'ai pas découvert un jour que mon père n'était pas mon père, donc ça a toujours fait partie de ma vie. Mais malgré tout, c'est-à-dire qu'on se pose des questions sur, entre la différence entre la biologie et l'éducation, sur la part de l'inné et de l'acquis, sur la place de la figure paternelle, de cette autorité paternelle. Enfin, ça induit plein de choses. Et en fait, moi, quand je vois aujourd'hui, enfin, après ce cheminement personnel, expliquer aujourd'hui que finalement le père et la mère est interchangeable, que le manque d'un père n'a aucune espèce d'importance, mais quel mensonge, quelle aberration, quelle souffrance. C'est faux, voilà, de dire que ça laisse totalement, la partie biologique laisse totalement indifférent, c'est faux, c'est pas vrai. Moi, j'y ai pensé, j'y pense, enfin, je veux dire, ça fait partie de ma vie, ça n'existe pas non plus. De dire que tout s'arrête à ça, évidemment. Mais moi, j'ai quand même eu un père, j'ai eu la chance d'avoir un père, et ça, c'est irremplaçable. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois le paradoxe qui consiste d'un côté à expliquer qu'il n'y a rien de problématique, est-ce que, puisque c'est légalisé aujourd'hui en France, une femme célibataire ou un couple de femmes sans aucun problème d'infertilité puisse accéder à la PMA et donc choisir et organiser une absence de père. Et que dans le même temps, on a un gouvernement qui nous explique que s'il y a des émeutes en France, c'est parce qu'il y a un manque d'autorité paternelle et que les pères ne sont pas au rendez-vous et sont absents. On voit bien qu'en fait, ce grand écart n'est pas tenable. Et je trouve qu'il y a une grande différence à dire, bien sûr, la vie peut nous priver d'un père. Ça arrive, parce que un divorce qui se passe mal et un père qui se désintéresse, parce que je ne sais pas, un décès, parce qu'un accident, une grossesse non désirée, un père qui ne peut pas assumer, ça c'est la vie, bon, bah, ça fait partie des aléas de la vie. Mais il y a une grande différence entre ces aléas qui existent, qui n'empêchent pas les enfants de vivre et de grandir, fort heureusement, mais même si je pense qu'il y a toujours derrière un manque, parce qu'on passe notre vie à gérer les névroses vis-à-vis de nos pères et de nos mamans, hein, on passe notre vie à essayer de les régler, donc c'est bien que ça a quand même une importance. Et derrière, organiser cette privation dès la naissance par l'État. Et moi, je n'entends pas quand on dit oui, mais ça relève de l'intimité, c'est privé, mais c'est pas vrai. À partir du moment où où l'État s'en mêle, où l'État accompagne, où l'État reconnaît, où l'État finance, ça devient un sujet politique, ça devient un sujet de société. On parle pas d'une femme qui fait le choix personnel, je sais pas, de se dire, bah voilà, j'arrive au bout de ma vie, je me débrouille pour tomber enceinte, mais je fais mon affaire. Je dis pas que voilà, c'est le modèle idéal, mais c'est pas la même chose que de dire, ah non, je vais aller organiser ça avec l'État qui, derrière, va financer ma PMA, la faire reconnaître. Donc c'est un sujet politique, et donc c'est un sujet fondamental lié à l'affiliation. Et donc moi, je pars du principe, et je n'en démords pas, et ça n'a rien à voir avec une quelconque homophobie, ça n'a rien à voir avec l'idée que des couples homosexuels ne puissent pas aimer des enfants. C'est pas du tout le sujet. Bien sûr qu'on peut aimer des enfants, bien sûr qu'ils peuvent les élever, c'est absolument pas le sujet, mais c'est que vous ne m'enlèverez pas de la tête. Voilà, vous ne m'enlèverez pas de la tête que un enfant a besoin d'un père et d'une mère, et que c'est un mensonge de lui faire croire qu'il n'a pas un père et une mère, puisque de fait, pour des raisons biologiques, il l'a, donc ça existe. Et que à partir de là, c'est une souffrance que de priver volontairement cette figure, ces figures complémentaires qui n'apportent pas la même chose dans la construction affective, dans la construction sociale. Et que dans l'éducation, il y a l'amour, mais il n'y a pas que de l'amour. Il y a du mimétisme, il y a de l'identification. Et il y a une... Même quand on est une femme, on sait à quel point... Dans sa vie affective, notre vie affective se construit aussi à la base relativement à la relation qu'on a avec notre père, relativement à la relation que notre père a avec notre mère. Voilà, tout ça est décisif. Donc, oui, et tout ça aussi, je l'ai construit, je l'ai affiné, je l'ai ressenti à travers aussi mon histoire personnelle, qui n'emporte pas tout. Bien sûr, derrière, j'ai aussi de la rationalité, j'ai des échanges, voilà. Mais c'est sûr que c'est des combats qui me tiennent à cœur, et je sais qu'ils sont politiquement incorrects. Certains diront dérisoires, dépassés, perdus, mais vous ne me l'enlèverez pas de la tête. Donc, une fois de plus, le rôle de la politique, c'est quand même justement d'être capable de s'extraire de la polémique, de l'émotion du moment, et de voir loin. Et donc, c'est vrai que, moi, je vais vous le dire, je ne peux pas vous le dire autrement, je vois avec un immense mépris. Aujourd'hui, tous ces LR qui étaient les premiers à courir derrière les banderoles de la manif pour tous, à se montrer, à se faire mousser, tous, voilà, c'est simple, il n'y avait quasiment pas d'exception, et qui aujourd'hui sont tous en train de dire non, j'ai fait une erreur, non, j'ai fait n'importe quoi, pas du tout, j'ai pas dit ça ou j'ai pas pensé ça, voire jusqu'à Valérie Pécresse qui a quand même expliqué, non, en fait, je suis descendue en bas de la rue pour voir ce que c'était, et puis, mais je voulais pas soutenir, enfin, c'est affligeant.
Oui, mais on dirait que ça nécessite plus de courage d'être conservateur que d'être identitaire, ce qui était précisément l'inverse il y a 20 ans.
C'est évident. C'est évident, et je pense que dans cette vision, c'est aussi là où on fait le tri entre ceux qui relèvent, pour moi, des politiciens et ceux qui relèvent des gouvernants, voire des chefs d'État. Enfin, je pense que si les Français devaient avoir un critère de sélection, ce serait celui-ci. Voilà. Après, c'est évident que oui, aujourd'hui, l'immigration est un sujet moins tabou, mais enfin, à quel prix ? À quel prix ? Voilà. Il faudra qu'on ait des viols de vieilles femmes par des clandestins, il faudra qu'on ait des meurtres de djihadistes tous les mois, des attaques au couteau, des émeutes monstrueuses qui coûtent des milliards. Enfin, je veux dire, c'est... Donc on ne peut pas s'en réjouir non plus, parce que voilà, mais on va dire que oui, la difficulté, c'est d'être capable de mener tous les fronts en cohérence en même temps. Mais moi, j'ai l'espérance que la cohérence, que la vérité paye sur le long terme.